avons aujourd'hui dans les salons de la librairie Mola, en ce samedi 10 septembre, ne m'enlevez pas mes feuilles quand même complètement, dans ce samedi 10 septembre 2001, pour une rentrée lacanienne à Bordeaux. J'ai dit 2001, je suis dans les anniversaires, 2011, qui est le lendemain du 9 septembre, de l'anniversaire du 9 septembre 81, c'est ça que j'avais en tête.
On est juste entre le décès du docteur Lacan, l'anniversaire, et les tours...
Et les tours jumelles.
Voilà.
Ah, on est le 10.
Donc c'est vraiment, on s'est juste glissé entre les deux.
Voilà. Et pour beaucoup d'entre vous qui recevez la publication électronique qui s'appelle Lacan Quotidien, vous savez que cette rentrée lacanienne a commencé en fait le 19 août avec les premières réactions au numéro du Point en date du 18 août. Avant cela, en rentrant de voyage, j'ai trouvé le 12 août un mail de la librairie Mola émanant du service des sciences humaines qui me demandait comment se procurer La vie de Lacan, dont ils avaient entendu dire que la sortie en librairie était programmée pour le 5 septembre. J'étais à ce moment-là en discussion au téléphone avec Jacques-Alain Miller quant à la diffusion de cet ouvrage dont il est l'auteur. Sont publiés au même moment le séminaire 19 de Lacan et Je parle au mur, qui sont des ouvrages dont il a établi le texte. Alors, un travail considérable que celui de Jacques-Alain Miller, un travail d'une vie, juste pour l'introduire, pour les quelques-uns d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, il a fait beaucoup d'autres choses encore, Jacques-Alain Miller, son cours hebdomadaire...
J'ai d'ailleurs fait dans ma jeunesse beaucoup de meetings de rue et je vois que je n'ai pas perdu la main et je pense que j'en ferai d'autres tant qu'il y aura les beaux jours.
Son cours hebdomadaire à Paris sur l'orientation lacanienne, qu'on le presse de publier, vous avez vu Lacan Quotidien d'hier, car il est devenu indispensable à toute une génération de praticiens et de théoriciens de la psychanalyse.
C'est comme ça.
Il a publié en son nom, Jacques-Alain Miller, quelques volumes qui ont beaucoup marqué l'opinion. Il y avait les lettres à l'opinion éclairée, vous vous souvenez, en 2002, un début dans la vie la même année, le neveu de Lacan en 2003, la vie de Lacan aujourd'hui. Entre les deux, il y avait « Voulez-vous être évalué ?», ce qui me permet d'introduire très rapidement à l'action politique de Jacques-Alain Miller, de politique de la psychanalyse, puisque « Voulez-vous être évalué ?», c'est aussi la trace d'un combat, le combat des forums des psys que beaucoup d'entre vous ont suivi, qui a été mené entre 2003 et 2010 et qui a permis de faire reculer ce qu'une de nos amies Agnès appelait une tentative d'assassinat manqué de la psychanalyse. Jacques-Alain Miller, c'est aussi une action institutionnelle majeure au sein du groupe analytique, dans la cause freudienne avant la mort de Lacan, dans l'ECF depuis, la création de l'EEP, je passe très vite, qui s'appelle maintenant, qui a donné naissance à une euro-fédération de psychanalystes très puissante. En 92, il a fondé l'Association mondiale de psychanalyse, qui réunissait les grandes écoles de part et d'autre de l'Atlantique. Elles sont maintenant 7. Il a été délégué des générales de l'AMP jusqu'en 2002 et j'ai eu la chance de faire partie de son bureau et de travailler à ses côtés pendant les 4 dernières années où il a occupé son mandat. En 2003, donc, c'est le combat des forums et cette année, en 2011, c'est un nouveau combat. Cette fois, contre l'effacement du nom de Jacques-Alain Miller. C'est un combat qui concerne aussi la vie de la psychanalyse. Alors, je ne savais pas comment qualifier ça. Je me disais, est-ce qu'on peut parler d'assassinat manqué ? Est-ce que cette mise au tombeau, Jacques-Alain Miller proposait à l'instant cette mise au tombeau symbolique, comment appeler l'effacement, la programmation de la disparition d'un nom ? En tout cas, c'est une chose tout à fait grave. La psychanalyse ne peut effacer sans dommage le nom de l'auteur, barrer la place de l'énonciation, nier le travail du soutier, puisque Jacques-Alain Miller parlait de son travail comme d'un travail de soutier. Il est dans la soute, lui, avec le charbon, pendant que les autres sont dans les salons. Alors Jacques-Alain Miller se montre, Il va dans les librairies, à la rencontre des libraires et du public. Mola est le premier qui le reçoit à Bordeaux, avant Toulouse, Strasbourg, Montpellier et de nombreux autres qui vont suivre. Je vous remercie d'être tous ici pour le recevoir. Je remercie Mola et je remercie Jacques-Alain d'être venu.
Voilà, merci. Bon, alors je commence par Bordeaux, par la librairie Mola. Ce que je ne peux pas appeler un périple, parce qu'un périple, c'est quand même une trajectoire qui se boucle, mais une série de voyages, en étoile plutôt, puisque je reviendrai chaque fois à Paris, le soir même, qui vont me mener aux quatre coins de la France. Moi, qui ai vécu tout de même, à partir d'un certain moment, une vie de moine, n'est-ce pas, de moine bénédictin, comme était le frère cadet du docteur Lacan. Une vie de moine bénédictin vouée au contrôle du signifiant, chaque phrase de la sténographie sous-pesée pour donner, pour qu'elle vienne s'inscrire dans un séminaire, et qui n'ait vraiment jamais désiré les feux de la rampe. C'est un trait, je ne sais pas, de mon caractère. C'est très profond chez moi, ça. C'est ce qui me différencie, d'ailleurs. On s'est réparti ça entre mon frère cadet et moi. Gérard Miller, lui, il adore être sur le devant de la scène, et ça a commencé quand il était tout petit. Bon, je ne vais pas vous faire mes confidences à moi, mais je vais vous faire les siennes. Quand il était tout petit, par exemple, il avait une sorte d'habitude ou de tic, ou je ne sais pas, ça lui prenait comme ça, et il disait « Bravo, Gérard Miller !» N'est-ce pas ? Bon, et moi, vous voyez, c'est très différent, parce que je me disais toujours, mais quand on est reconnu dans la rue, et on ne peut pas aller où on veut, et on ne peut pas aller à qui on veut si on est connu. Et donc, je prenais le problème autrement, si vous voulez, par d'autres préoccupations. Bref, je vais faire des voyages en étoile à travers la France. Je vais à Bordeaux, je remonte à Paris. Je vais faire ça en septembre-octobre. Ça va faire 5 librairies et il y en a 10 autres qui me veulent. On me veut. J'ai vraiment... Ça me fait chaud au cœur, d'ailleurs. C'est très agréable. Je découvre ça. Enfin, et donc, les autres, ça sera pour quand j'aurai fini le livre « Vie de Lacan ». Un ami m'a donné des conseils, il m'a dit il faut que tu écrives, il faut que vous écriviez 500 000 signes environ pour que ça fasse un livre qui se tienne bien en main. Bon. Et là j'en ai écrit environ le quart, et donc d'habitude ces dernières années je prenais déjà 15 jours à la Toussaint, je pense que là je vais prendre 3 semaines à la Toussaint, quitte à revenir 2 jours à Paris pour mes patients. Je vais prendre 15 jours à la Toussaint, dans un hôtel de l'île de Ré, où la patronne est extrêmement sympathique, ça l'intéresse de s'occuper de moi, etc. À 3 km ou 4, il y a une piscine, il suffit d'avoir la voiture, et donc je vais, pour la première fois de ma vie, m'isoler pour écrire. Je vais voir combien je produis de signes, parce que c'est une question de quantité, n'est-ce pas ? Combien je vais produire en 3 semaines où je vais m'assiéger moi-même. Ma peur est que mon inspiration disparaisse. Bon, mais actuellement, elle est vive. Et donc, j'espère que si je termine le 15 novembre, on me promet que le livre sera en vente en février. Si je ne le termine pas en novembre, eh ben je reprendrai 3 semaines au moment de Noël, et à ce moment-là, il sortira avant les grandes vacances. Bon, donc c'est programmé. Donc je commence par Bordeaux, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que la librairie Mola a été la première à insister, à se manifester, au moment même où je comprenais ce qu'on était en train de me faire, n'est-ce pas, ce que j'appelais être enterré vivant. Oui, il y a ça dans... C'est dans Kill Bill. Il y a la fille, n'est-ce pas ? oui, enterrée vivante. Et puis il y a d'autres.
Elle a réussi à sortir de la.
Oui, voilà, c'est comme moi. Et la librairie Mola s'est manifestée. En plus, alors c'est Bordeaux où j'ai beaucoup d'amis par les psychanalystes, même si tous ne sont pas amis entre eux, ils sont mes amis. Il y a beaucoup de psychanalystes. Ils sont éminents à des titres divers dans leur pratique, dans ce qu'ils écrivent. Il y a aussi j'ai eu un éblouissement le jour où je me suis promené dans la région avec Judith et que mon objectif était de voir ce que je n'avais jamais vu, le château de la Brède, puisque un de mes auteurs favoris, et même à une époque, celui que je mettais au-dessus de tout, c'était Montesquieu. Je voulais voir le château de la Brède, enfin, et je voulais voir la tour de Montaigne. Et j'ai mesuré la proximité incroyable et que tout ça, c'était Bordeaux. Et j'ai eu un coup de foudre pour la région en me promettant d'y revenir, ce que je n'ai pas pu faire pour des vacances. Et là, je suis obligé de filer dès ce soir. Mais j'en ai conclu que c'était vraiment une région bénie des dieux. Et donc, ça me fait très plaisir de commencer. Et alors, d'autre part, il y a Philippe Solers, qui est vraiment du terroir. Je lui dis qu'il se transforme en un écrivain régionaliste, puisqu'il juge tout à partir de Bordeaux. Et maintenant, nous avons toujours été amis, mais enfin, maintenant, on ne se quitte plus. On a fait une réunion ensemble mardi à Paris, où il a rappelé comment il avait été un militant de Lacan, quand Lacan avait été chassé de l'école normale supérieure, qu'il était à sa disposition et qu'il faisait tout pour Lacan. Et c'était touchant de voir ce grand écrivain affirmer ça. Bon. Et puis, d'autre part, il est mon voisin. Il se trouve comme ça. Enfin, il est mon voisin. On a commencé par habiter là. D'ailleurs, la dernière année de la vie de Lacan, c'était avec Lacan. Ma femme, on a pris un plus grand appartement. On a loué un appartement plus grand parce que le docteur Lacan, qui n'était pas une jeunesse à ce moment-là, avait été quitté l'année d'avant par une femme beaucoup plus jeune avec qui il vivait, et donc Judith ne voulait pas qu'il reste seul le soir, et donc lui-même avait donné des signes qui n'avaient... Ah, je raconterai peut-être ça, mais je peux le dire ici, oui. Lui-même avait donné des signes que ça ne lui convenait pas de rentrer, d'être seul chez lui, puisque un jour il était venu dîner à la maison, on habitait quai de la Mégisserie, ça s'était prolongé, et au fond... Il avait fait comprendre qu'il préférait passer la nuit là. Et on avait déplacé notre fils pour qu'il dorme dans le lit de notre fils. Et après ça, ma femme a dit qu'il faut qu'on trouve une solution. Ça veut dire qu'il ne veut pas être seul dans son appartement. Et donc, elle a trouvé, au début de l'année, je ne sais plus la date exacte, c'est 79 ou 80, un appartement plus grand, rue d'Assas. On est toujours dans cet immeuble, mais on a descendu, on était au cinquième, on a descendu au troisième. Et nous étions colocataires avec Lacan. Et donc, la dernière année de sa vie, en effet, il logeait là. Et le matin, ma femme ou le mari de Gloria, la fidèle secrétaire, qui était Abdoulaye Herodia, qui ensuite a été ministre des Affaires étrangères du Congo, l'une ou l'autre conduisait Lacan rue de Lille, où il recevait ses patients, et puis il rentrait le soir rue d'Assas. Et ce qui lui permettait, à l'occasion, quand il voulait que je rédige des statuts pour l'école de la cause freudienne, de me persécuter, de dire « alors c'est pas encore fini », etc. « Oui, c'est difficile bon. ». Donc, voilà le schéma. Et je pense que Solers connaît cette histoire et qu'au fond, quelques années plus tard, j'ai vu Solers venir s'installer. Nous sommes au 74, il est venu s'installer. Je pense que ce n'est pas un secret de le dire, il est venu s'installer à la porte d'à côté. Au point que quand je suis dans le bureau de ma secrétaire, je vois l'entrée de chez Solers. Je pourrais... Vous savez, comme ça, avec au téléobjectif, savoir qui vient le voir. Il y a quelque chose comme ça dans une pièce de Feydeau. Il y a dans la pièce de Feydeau qui s'appelle « Ne te promène donc pas toute nue ». Et parce que le mari redit à sa femme, ne te promène pas donc pas toute nue. Et il dit, mais regarde, il y a Clémenceau de l'autre côté qui te regarde. Et la dame dit, bonjour Clémenceau. C'est quelque chose comme ça. Bon. Alors, je pense qu'il est venu quand même là, pas absolument par hasard, qu'il est venu s'installer là. Et donc maintenant, il essaye de me diriger politiquement dans cette affaire. D'ailleurs, il est un appui de tous les instants. Donc ça rend très présent Bordeaux, puisque je le trouve très, très régionaliste. Tout est mesuré à l'aune de Bordeaux. Philippe Lassagna, après le mardi... j'ai dit, voilà, un Bordelais de Bordeaux. Il a dit, oui, vous avez vos racines à Bordeaux. Vous avez... Donc, vraiment, il va chercher loin les choses. Et justement, Philippe Lassagna n'a pas des racines anciennes à Bordeaux, à la différence de Merlet. Donc, on a dit qu'on avait quand même parmi nous un Bordelais de chez Bordeaux qui était... C'est pas vrai non plus. Oh, bon, alors, Solers ne va pas nous considérer. Bon. Donc je suis très content de commencer par Bordeaux ce tour, ce qui fait que je vais quand même, ça sera important pour moi que vous posiez des questions, parce que ça va me donner une idée, j'en ai déjà eu trois dans la rue, mais le niveau de préoccupation et à quel niveau il faut que je place la voix, parce que je vais, vous pensez bien que je ne vais pas répéter les choses d'une fois sur l'autre, donc... c'est un tour de France, si l'on peut dire, enfin une étoile de France, que je vais faire, et je voudrais savoir où placer ma voix. Bon, mais peut-être que ça sera différent dans chaque région, ça sera intéressant. Peut-être que les Toulousains ont des questions tout à fait différentes que les Bordelais, et les Rennais, encore d'autres, et les Lillois, etc. Bon. Alors. Maintenant, je vais vous dire deux, trois choses que j'ai griffonnées dans le... Enfin, à partir des notes que j'ai griffonnées dans le train, à partir de, oui, de ce matin-là, vers midi et demi. Et je comptais vous dire, commencer les choses en vous disant que l'homme qui vous parle a changé, est un homme qui a changé depuis hier soir. Apparemment, on me reconnaît. Enfin, les gens que je connais, non. Je n'ai pas changé comme le personnage de Kafka qui se révèle comme un insecte. Bon, c'est pas ce genre de métamorphose. Ça aurait été intéressant, d'ailleurs, vraiment si la modification spirituelle se traduisait par une modification corporelle. Si vous voulez, ou comme quand on est divinisé, par exemple, n'est-ce pas, dans la Rome antique, on vous divinise, on est censé avoir un corps de lumière, enfin, bon, mais ça, peut-être qu'à l'écran, on voit quelque chose, une luminescence, l'aura qui... Mais je ne crois pas, donc il faut que vous... Du coup, vous devez me croire sur parole. Oui. Je vais voir si je peux me rendre crédible. Justement, crédible sur ce changement que je pense avoir connu depuis hier soir. Et c'est l'homme qui a connu ce changement est aussi un homme qui a perdu un petit carnet à couverture noire hier soir. Et ça m'a agacé extrêmement parce que j'avais retrouvé ce carnet que j'avais... J'avais écrit quelques notes il y a 10 ans environ, et puis il s'est retrouvé, je ne sais pas comment, sous mon bureau. Et je pense que les deux faits sont liés, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait un acte manqué en laissant hier soir, et ça m'agace énormément, mais bon, en laissant hier soir ce carnet à couverture noire sur la table. C'était un carnet où j'avais inscrit... J'avais quelques notes pour rendre hommage à la directrice de l'école normale supérieure, puisque hier soir, c'était la soirée d'hommage organisée par l'initiative de Catherine Clément pour célébrer l'anniversaire des 30 ans de la mort de Lacan. Donc j'avais pris des notes dans ce petit carnet les deux heures avant. J'ai prononcé cet hommage. Après, il fallait que je lise un morceau de Lacan qui était très bien choisi. Et je pense qu'on m'a donné un papier de plus et que du coup, j'ai dû laisser ce carnet noir sur la table. Et j'ai demandé à Judith, qui m'a amené au train, si elle pouvait repasser. Elle n'y était pas allée, bien sûr, puisqu'elle avait annoncé que non, mais que si elle pouvait passer et voir si sur la table, c'était encore là. C'est d'autant plus agaçant que j'aurais pu l'oublier, mais après, j'avais tout le temps de le récupérer, et je n'ai pas songé à me dire « Où est ton petit carnet noir ?» Donc, j'ai voulu le perdre. Qu'est-ce que j'ai voulu perdre avec ça ? Alors, ça a été très important pour moi de parler hier soir dans la cour des Ernest, comme on l'appelle, de l'école normale. C'était très beau parce qu'il faisait très chaud, très beau. Il y avait plein de monde. Et on appelle ça la cour des Ernest parce qu'il y a le bassin avec des poissons rouges. Et c'est traditionnellement, ils ont été baptisés Ernest pour un ancien directeur de l'école qui s'appelait Ernest Lavis, l'historien. Et on discute, peut-être qu'il y a un autre Ernest aussi dans les parages, c'est un prénom répandu à l'époque, mais enfin on dit les Ernest, le bassin des Ernest, et donc ça c'est la cour des Ernest, où on passe, qui est de l'ancienne école. Maintenant il y a un bâtiment tout à fait nouveau qui n'existait même pas de mon temps, qui est de l'autre côté de la rue. Oresco reference. La vraie école, c'est celle-là, et chaque fois que je vais là, moi, non, pas chaque fois, parce que quand j'y ai vécu 5 ans, je finissais par ne plus y penser, mais enfin, c'est là que, quand on passe l'oral, on est là, et on sait qu'on va passer, qu'une partie de votre destin va se jouer. Je me rappelle, révisant du Virgile, en tournant autour du bassin des Ernest, et en me disant, bon. Et d'ailleurs, je n'ai pas été brillant ce jour-là, j'ai confondu mens et mensa, j'ai confondu le moi et la table. Et quand vous traduisez un texte de Lucrèce, peut-être, et vous traduisez un texte, alors vous pouvez tout à fait donner un sens tout à fait vraisemblable avec le moi à la place de la table. Ça se substitue d'une façon, avec une aisance, vous ne pouvez pas imaginer. Mais le professeur, c'était qui ? Je crois que c'était Jacques Perret ou tout ça. Il m'a dit, c'est dommage, c'était bien, mais bon. On souffre, vous savez, parfois dans ces trucs. Où est-ce que j'ai souffert encore ? Je me rappelle mes souvenirs. Oui. Ah oui, alors, je les avais bluffés en histoire antique parce qu'il m'avait posé les 12 dieux de l'Olympe. Et moi, c'était ma spécialité. Depuis que je suis lire, j'étais intéressé à la mythologie. Et donc, j'avais appris presque par cœur le dictionnaire de Grimal là-dessus, assez jeune. Et puis, je m'étais perfectionné. Et là, j'avais étudié, à l'époque, le top dans les études anciennes, c'était, si je me souviens bien, c'était Martin Nilsson, suédois ou tout ça, qui était traduit chez Payot. Et donc, il y avait des raffinements sur les dérivations des dieux et tout ça. Et visiblement, j'en savais autant parce que moi, on m'avait transmis aucune tradition religieuse. Mes parents étant juifs, mon père, son grand-père était rabbin, et il m'avait transmis en tout et pour tout, tu es juif, et rien d'autre. Rien d'autre. Même pas, j'ai découvert l'existence d'une fête très importante pour les juifs, qui s'appelle Yom Kippour, je crois, en écoutant le docteur Lacan ou en lisant ses séminaires. Donc, pour vous dire, j'étais très, très retardé, et j'avais dû me fabriquer moi-même une légende, et je la fabriquais avec les Grecs, les Romains et la littérature française. Bon. Et j'étais vraiment ferré là-dessus, donc je les avais éblouis à l'oral, j'en savais plus qu'eux là-dessus. Et après, alors ça c'est une question qu'on prépare, on a une demi-heure pour préparer cette question, sans livre, et après il vous pose une petite question impromptue, et c'était les forums de la Rome impériale, et... Là, j'étais au premier concours et on a un programme énorme, donc on ne peut pas tout couvrir. Les forums de la Rome impériale avec leurs plans et tout, moi, j'avais laissé ça de côté. Donc, j'ai dû inventer les forums de la Rome impériale. Et heureusement, ils m'ont quand même mis une très bonne note. Ça compte moins, la deuxième question. Bon, mais c'était... On souffre quand même un peu. Bon, je ne vais pas vous raconter tout mon concours comme ça, ça me revient là en vague. Bon, donc c'était les Ernests, et je me suis aperçu de quelque chose hier soir, justement en évoquant Lacan qui avait été chassé de ses, qui avait été accueilli dans ces lieux d'abord et puis chassé après. Il avait été accueilli. J'ai même rendu hommage au directeur qui l'avait accueilli, qui était Robert Flacelière. Qui l'avait accueilli sur les instances d'Althusser, secrétaire général de l'institution, n'est-ce pas ? Althusser était un communiste, et il était beaucoup de choses, mais il était aussi secrétaire général de l'institution, c'est-à-dire un représentant de l'institutionnel. Et Flacelière avait accueilli Lacan, et j'ai dit Flacelière, Robert Flacelière, helléniste distingué, et spécialiste de Plutarque sur lequel je m'appuie dans ma vie de Lacan. Il n'a pas traduit, à ma connaissance, les vies parallèles, mais c'est lui qui a traduit l'essentiel des traités de Plutarque qu'on a, et c'est beaucoup de volumes chez Budet. Donc j'ai rendu hommage à eux, et que c'était l'honneur de l'École normale d'avoir accueilli Lacan, mais que ce n'était peut-être pas tellement à son honneur que les mêmes, les fichus à la porte, 5 ans plus tard, sous des prétextes comme que la fumée dérangeait, la fumée des auditeurs du séminaire de Lacan dérangeait le directeur qui vivait au-dessus. Ou que les auditeurs n'étaient pas du modèle universitaire. Et j'ai dit, au fond, soyons simples, il y avait, au bout de 5-6 ans, il y avait un phénomène de Lacan fatigue. À l'École normale, et c'est vrai que Lacan était fatigant. Et qu'au fond, ce qu'il aurait dû faire, c'est accepter les prétextes et vider les lieux. Et Lévi-Strauss lui avait conseillé ça. Une institution vous accueille, elle vous fiche à la porte, on dit merci, enfin, fiat voluntas, toi. Et que Lacan, il n'avait pas fait ça. Il avait crié au scandale, il avait ameuté le peuple, son séminaire avait envahi le bureau du directeur avec Solaire sans tête, qui en est fier encore et qui le raconte. Il s'était donc très mal tenu, le docteur Lacan, mais qu'il avait été maltraité, donc, et que je rendais hommage à la directrice de l'établissement au fond, de réparer cet épisode en ouvrant les lieux. Bon. Et puis, j'ai parlé de la proscription dont Lacan avait été victime, et j'ai dû dire que elle ne s'était pas arrêtée, la proscription, avec sa mort, puisque moi-même, j'ai demandé, des années plus tard, à celui qui s'appelle Caïman, c'est-à-dire responsable des études de philo, qui se trouvait être en plus le type avec qui j'avais partagé la même turne, c'est-à-dire la même chambre. C'est un coturne, on appelle ça. Donc, pendant un an, il y a 2 lits dans la même chambre, la même pièce, et c'était un Bordelais, en plus, tiens, je suppose. Bernard Potras. Charmant. Et on était rentrés tous les deux au premier concours, jeunes, donc on nous avait mis ensemble dans la même turne. Et c'est lui qui était devenu Caïman, parce que Derrida s'était presque excusé de le nommer, parce que je connaissais bien Derrida, il m'a dit, tu comprends, toi t'as déjà trouvé un poste à Besançon, pas lui. Bon, la vérité, Potras était Derridien et moi pas, donc c'était très légitime. Et alors, mon bon Potras, je peux vraiment pas le soupçonner de méchanceté à mon égard, il m'a dit, oh non, mais tu veux une salle pour ton séminaire d'études approfondies, simplement à titre de prêt, n'est-ce pas, pour un séminaire de Paris 8. Je ne voulais pas en conquérir l'École normale, j'y pensais pas. Mais je ne peux pas demander ça au conseil d'administration. Tu sais bien comment Lacan est parti. Il a laissé ici un terrible souvenir. Et donc j'ai vu que je portais le péché de Lacan des années plus tard, alors que j'étais même pas, Solers d'ailleurs se fichait de moi en disant que lui il était là auprès de Lacan et moi pas. Moi je lui dis, eh ben, j'étais maoïste à ce moment-là et ça me paraissait plus important de ce que je faisais que les affaires du 6e arrondissement. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi hier soir ? Je l'ai dit même au moment où ça se passait. Et on m'a dit que ça a été enregistré, que j'aurai la transcription ce soir en rentrant à Paris. Et si je l'ai, je le publierai demain, mon discours d'hommage à la directrice de l'École normale supérieure. C'est un hommage d'autant plus sincère qu'à la fin, je lui offre une plaque de chocolat. Et à Catherine Clément aussi. De chez Jadis et Gourmande, qui est le meilleur chocolatier de Paris. Donc on ne peut pas dire que je me moque d'elle. Et donc, je me suis aperçu, je l'ai dit hier, que je n'avais jamais repris la parole à haute voix dans cette école depuis que j'avais quitté comme élève. Et je l'ai quitté après avoir passé l'agrégation et j'ai eu ce qu'on appelait à l'époque une année supplémentaire. On vous laisse à l'école normale une année de plus. Donc j'ai passé l'agrégation en 66. Donc j'ai fini mon année supplémentaire en 67. Donc en juin. Et au fond, depuis juin 67, je n'ai jamais été invité à prendre la parole dans cette école. Alors je n'ai été invité qu'une fois, d'ailleurs c'est faux, c'est quand Potra donc m'a refusé cette salle. Deux jours après, il m'a téléphoné en son nom et en celui de Badiou, qui était le Manitou à ce moment-là des études de philo à l'école normale, pour me dire « on voudrait absolument que tu viennes faire une conférence ». Ils n'avaient jamais pensé à ça pendant des années, n'est-ce pas ? Et j'ai dit, à titre de dédommagement, n'est-ce pas ? Eh bien non, ça ne m'intéresse pas. Et donc j'ai refusé, au fond, cette proposition que me faisaient mes deux amis. Parce que Badiou, c'est un très vieil ami, je l'ai accueilli au cahier pour l'analyse. Jadis, il est venu en surnombre, amené par François Rugnot, qui a séjourné dans cette ville la semaine dernière pour faire des cours à l'école de théâtre. Et donc je n'avais jamais parlé, et là je le faisais avec un certain plaisir devant ce public assez nombreux, ces jeunes qui étaient là. Il y avait même mes petites filles qui avaient voulu venir, alors que leurs parents veulent toujours les mettre au lit, mais là elles n'avaient pas l'école le lendemain, donc elles étaient là. Il y avait les jeunes du diable, etc. Il y avait les anciens, il y avait François Rugnot, il y avait Brigitte Jacques, il y avait Gérard Vachman, il y avait Catherine Millot qui parlait après moi, ça devait être BHL. Mais qui est à New York pour finir un livre de 500 pages à partir de l'alibi et du monde, d'après ce qu'il m'a dit. Donc il n'avait pas pu être là, et c'était Catherine Millot qui on s'est retrouvé avec beaucoup de plaisir. On a fait des parties de badminton formidables tous les deux, et pour jouer bien au badminton, il faut c'est très léger, mais il faut une sorte d'harmonie comme ça, et on avait ça, et donc on passait des jours à jouer au badminton. Et donc c'était très agréable, il y avait Catherine Clément que j'ai embrassée et tout. Et il y avait Monique Cantos-Perber, la directrice aussi. Et au fond, petit à petit, j'ai retrouvé effectivement un peu le ton de tribun que j'avais tout à l'heure dans la rue, pour évoquer justement cette proscription et que... Ce qui me revenait de ce que Lacan avait dit de lui-même, que son nom était devenu ineffaçable, précisément parce qu'il avait fait l'objet d'une tentative d'effacement. L'objet d'une oblitération. Et que, au fond, à part quand on essaye de vous supprimer symboliquement, et Lacan prononçait même en ce qui concerne le mot de forclusion, le mot de verwerfung, selon le principe freudien que Lacan a formalisé, ce qui est supprimé du symbolique, un nom qu'on ne veut pas dire, reparaît dans le réel. Et au fond, je sentais, au moment où je reparaissais à l'école normale, et où il y avait quand même, dans les parages où il y avait eu avant, puisqu'il y avait eu tout le monde, donc il y avait eu cette dame, et il y avait eu tout le monde, et que je reparaissais là, où quand même on ne m'avait pas rayé de la liste, c'était mon amie Catherine Clément, elle n'allait pas faire ça, elle n'y a jamais songé. Mais reparaissant là, je veux dire, je me sentais réalisé, je me sentais devenir réel. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai tapé sur la table, et c'est toujours chez moi le signe que... Il se passe quelque chose, quoi. D'ailleurs, je me fais toujours un petit peu mal, mais c'est je m'en prive pas forcément. D'abord, c'est un plaisir, c'est une jouissance, il faut bien que je l'avoue. Et je l'ai fait une fois à Barcelone, quand j'étais à la tribune, je devais prononcer une conférence, et j'avais un petit mégot, et j'écrivais de la main droite, comme ça. Il y avait un monsieur de l'appareillage, enfin l'appariteur, venant non à une qui est assez qui fumar. Bon, je continue, il insiste au lieu de me fiche la paix. Ça, et à un moment, avec la main gauche, puisque j'écrivais de la main droite, je tape sur la table à faire trembler tout. Et même mon verre de monde s'est déboîté. Eh bien, il y avait une personne dans la salle qui a décidé, une Espagnole de Barcelone, qui a décidé d'entrer en analyse, m'a-t-elle dit, sur ce fait-là. Sur le fait qu'elle avait vu en moi une violence terrible qui lui rappelait celle de son père. Son père qui battait avec sa ceinture ses frères, mais pas elle. Et au fond, elle venait peut-être pour que je la batte comme ça. Je vous rassure tout de suite, moi je ne touche pas, je ne bats pas mes patients. Lacan, ça lui arrivait vers la fin de sa vie pour exprimer certaines choses à certaines personnes très bien choisies. D'ailleurs, dans la voiture, Philippe Lassagna, qui m'a amené ici, m'a raconté, je lui ai demandé s'il avait eu l'article qu'il y avait dans le Libération d'aujourd'hui. Il m'a dit non, mais on a parlé de cette personne et il m'a raconté, c'était inouï. Il y a un témoin qui était Alexis Lacroix, qui était avec nous dans la voiture, qui a fait le voyage avec moi, qui est journaliste à Marianne et collaborateur de BHL pour les séminaires qui vont se dérouler Place Saint-Germain-des-Prés, et témoin comment on a... j'ai prononcé ce mot et Philippe a tout de suite raconté une histoire à mourir de rire, enfin pour nous, peut-être pas pour l'intéressé direct, que je lui ai dit, il faudra que vous racontiez ça tout à l'heure. Bon, et donc je me suis senti à ce moment-là que j'avais fait quand même l'objet, en effet, d'une Werferfunk, on ne peut pas dire mieux, tous les libraires de France, toutes les radios, tous les magazines, que j'en étais pas mort, qu'au contraire, j'avais été brusquement soutenu par une masse d'amis anciens que je connais, mes amis bordelais, bien sûr, mais beaucoup d'autres, et des jeunes, etc., et qu'on me poussait en avant, qu'on me faisait revivre, en quelque sorte, qu'ils avaient besoin de moi, ils avaient besoin que je sois là, que mon nom existe, qu'ils veulent même que je publie mes cours, ils veulent depuis longtemps, mais que là, je sentais que je changeais de dimension, en quelque sorte. Alors, et pas simplement quantitative, il y a les changements de dimension, si vous savez, je passe du temps, moi, pour faire Lacan quotidien, maintenant c'est Anne Poumlec, mais au début j'ai inventé le truc, donc j'ai découvert au fond pour les photos, vous pouvez faire des photos, vous appuyez, vous changez la dimension de la photo, vous pouvez la redimensionner en prenant le coin droit et en bougeant. Mais là je changeais de dimension au sens de Lacan, c'est-à-dire j'étais plus seulement dans le symbolique, j'étais dans le réel. Il y a quelque chose, j'ai pas été divinisé, non, c'est pas le divus Jacques Alain, mais... je suis devenu quelque chose de réel. En tout cas, voilà, je suis à Bordeaux, vous êtes des gens raisonnables dans votre majorité, pas plus fous que les autres, comme dirait Lacan. Eh bien, je pense que j'ai changé de dimension ces jours-ci et que je m'en suis aperçu hier soir. Et que, en effet, ça me demande de... c'était déjà un peu présent dans l'après-midi, puisque pour la première fois, quand quelqu'un me disait « il faut publier vos cours, vous en avez au moins pour 30 années de cours », et au fond, en français, parce que je les ai laissés publier en espagnol, où il y a déjà 10 ou 12 volumes, et j'ai dit oui, je voyais que je ne pouvais plus dire non comme j'ai dit non toujours. Et ça continue de venir, ou des demandes de ça, ou des approbations de faire ça, donc... Déjà dans l'après-midi, ça se mijotait, mais ça s'est bouclé en quelque sorte dans la soirée. Alors, bon, ça... croyez pas que ça me monte à la tête. Hein. C'est simplement, ça me demande de penser en quelque sorte les nouveaux devoirs, en quelque sorte, ou la nouvelle conduite que je dois avoir à l'égard de moi-même aussi. Je pense que... alors oui, il y a aussi quelque chose qui a joué, c'est l'après-midi... donc justement j'étais allé acheter les plaquettes de chocolat de Jadis et Gourmande sur le boulevard du Port-Royal, et là je tombe sur qui, quelqu'un que vous n'avez pas connu mais peut-être que Merlet a connu, Mélèze, vous rappelez Mélèze, voilà, et Klotz aussi, et Mélèze était un membre de l'école freudienne, gentil comme tout, qui n'a jamais venu avec nous mais qui n'était jamais hostile et on avait toujours de bons rapports. Et donc je vais à un kiosque et sur le Port-Royal, à deux pas de Jadis et Gourmande, et je tombe sur Mélèze, et on prend un pot, et il n'avait pas l'air d'être très au courant de ce qui se passait, moi je n'avais pas très envie de raconter tout ça, donc on a parlé de vieux souvenirs plutôt, des vieux de l'époque, de Lacan, tout ça, et il m'a raconté qu'il parlait, ah oui, il m'a raconté une histoire formidable, je lui ai demandé de l'écrire, je ne vous la raconte pas, il m'a dit qu'il l'écrirait pour Lacan quotidien, je lui ai dit j'ai une newsletter, et il a une histoire qui mêle Solaire, c'est à côté de qui il était assis au séminaire, et Lacan, et lui. Donc c'est très drôle. Donc on a parlé de ça, mais à un moment, il a dit « Toi qui ne dois pas avoir loin de 70 ans. » Et que lui, il en a 75. Et pour la première fois, je me suis aperçu que c'est vrai. Et ça m'a l'air d'une mauvaise plaisanterie. Parce que je vis quand même plus que jamais là, dans l'idée... Que, bon, je sais que j'ai plus 17 ans, mais pas très loin. Et donc, là, il y a des chiffres... C'est comme la crise économique, on vous donne des chiffres qui ne répondent plus à rien. Et donc, je me dis, en effet, il faut quand même que je prenne en compte que j'ai une histoire. Pour moi, ça ne s'est jamais constitué comme une histoire, un capital qu'on exploite de notoriété, etc. Et j'étais plutôt, en effet, mon symptôme, c'était plutôt ce qui s'étale dans le premier séminaire. On m'a ressorti la phrase souvent, n'est-ce pas ? On voudrait ici ne compter pour rien. Et donner du texte de Lacan, enfin la version. Bon. Et déjà, en me qualifiant de on, en me faisant parler comme on, je montrais que j'étais en quelque sorte fondu dans le texte. Bon. Alors, pourquoi pourquoi je me suis placé comme ça, alors que, visiblement, par exemple, mon frère, lui, il adore son... C'était la promotion de Gérard Miller, du nom de Gérard Miller, ça lui tenait à cœur. Et il y en a beaucoup d'autres pour qui c'est normal. Et que moi... Alors, il y avait d'abord une sorte de folie de logicien, c'est-à-dire ce qui compte, c'est 2 et 2 égale 4. C'est-à-dire, pour moi, il n'y avait rien de plus... La splendeur, c'était la vérité absolue que personne ne peut mettre en cause, où il n'y a pas de... il n'y a pas de rhétorique, il n'y a pas de ombre... et que ça, qu'on puisse élever une proposition comme ça, ça paraissait encore plus somptueux que Saint-Pierre de Rome, qu'il n'y avait rien de plus grand. Et que là, en effet, on ne signe pas 2 et 2 égale 4, signé Jacques-Alain Miller. Et on ne signe pas non plus signé Cantor. Personne ne signe ça. Même celui qui trouve ça disparaît dans sa trouvaille. Ce qui n'est pas tout à fait vrai à d'autres niveaux des mathématiques, parce qu'on dit bien les espaces de Hausdorff, on finit par avoir besoin des noms propres pour nommer certaines dimensions mathématiques. Mais il y a quand même... C'est ça, et alors que j'ai jamais été très fort en mathématiques, ou que j'ai été bloqué à certains niveaux. J'ai aimé la logique, j'ai pu en faire jusqu'à un certain niveau de mathématisation, mais pas au-delà. Et donc, mais c'était très présent pour moi. Et au fond... Au point que tout ce qui était la rhétorique, dont j'use maintenant, vous voyez un peu comment je fais cette conférence, de chic, et en usant de toutes les ficelles, que je n'appelle même pas des ficelles, ça, c'est incorporé à moi, mais c'était vraiment la densité et la psychanalyse. Vous comprenez, vous ne pouvez vraiment pas analyser quelqu'un avec 2 et 2 égale 4. Parce que quelqu'un vous dit, oui, c'est peut-être ça, autre chose, et puis il change d'avis le lendemain, vous lui dites, alors, il faudrait savoir, mon vieux. Bon, c'est fini. Donc, si vous voulez, même la profession de psychanalyste est déjà le contraire de ce qu'était ma pente naturelle. Bon. Et j'ai dû l'apprendre, je l'ai appris grâce aux patients, et grâce à ma propre analyse, évidemment. Bon. Et d'ailleurs, j'ai expliqué pourquoi j'étais allé chez le premier analyste, qui était quand même un salopard de première, et que j'avais tout pour le savoir, et que j'y l'identifiais justement, je trouvais qu'il aimait plus Lacan que moi, puisqu'il pouvait faire les pires saloperies au nom que c'était pour Lacan. Et je l'identifiais consciemment quand je suis allé demander une analyse à ce type qui n'était pas le type que Lacan m'avait indiqué. Moi, j'avais demandé à Lacan, d'ailleurs sous une forme conditionnelle. Si je voulais faire une analyse, est-ce que je pourrais la faire avec vous ? Non. Et je lui ai demandé encore une deuxième fois un an plus tard, et ça a été toujours non. Bon, et alors je lui dis avec qui ? Et il m'a donné un nom. Je lui ai dit non, je ne le prends pas au sérieux, celui-là, c'est pas possible et tout. Et j'ai choisi qui ? Quelqu'un. Dont je pensais qu'il me dépassait qu'il avait une dévotion à Lacan. Moi, je ne me sentais pas dévot de Lacan. Je l'aimais, je le respectais, j'aimais faire des choses pour lui, lui rendre la vie plus facile. Mais je ne l'aurais pas fait n'importe quoi. J'y avais un principe de comment on se tient en société. Et tandis que l'autre, visiblement, il était bestial, comme on dit. Et anciennement du Parti communiste, et qui avait même au moment, dit-on, des blouses blanches, approuvé chaudement Staline. Et je suis allé chez ce type en sachant cette dimension chez lui, et en l'identifiant consciemment au personnage qui figure, au type du parti qui figure dans 1984, le roman de George Orwell, celui qui, où on mesure l'extrême où il a de la déchéance où il a conduit l'autre, quand il lui fait ça et il lui dit 5. Et pour moi, cet analyste, c'était cet homme-là. Celui qui vous montre 3 doigts et vous dit 5. C'est-à-dire le contraire de 2 et 2 égale 4. Et donc, il incarnait l'au-delà de mes propres limites psychiques. Et donc, je savais que c'était un salaud, évidemment, depuis le début. Bon. Et donc, ça a joué pour moi beaucoup, ce truc. D'ailleurs, je disais que la plus grande joie qu'on doit éprouver dans la vie, c'est quand on trouve un théorème et que ce théorème est vrai et qu'il n'y a rien de plus grand que ça. Le reste peut aller... Bien sûr, il y a la jouissance physique, etc. Mais bon, elle est éphémère, etc. Tandis que le théorème, il est nulle part. Même, ce n'est pas un bâtiment qu'on peut détruire. Vous avez les Bouddhas de machin, et puis les autres, les talibans, ou je ne sais plus qui, s'ils prennent, ils font tomber les... Et bon, c'est un souvenir, ou la huitième merveille du monde, enfin, les merveilles du monde qui sont détruites. Tandis que ça reste pour toujours. C'est comme depuis toujours, c'est un morceau d'éternité, enfin, un morceau d'éternité, et incandescent. Je ne sais pas si je transmets la jouissance et la fascination pour ça. Bon. Donc, ne comptez pour rien, ça voulait dire ça aussi. Mais j'en suis revenu de beaucoup de façons. Je manie... évidemment, je suis analyste, donc... tout ça, si vous voulez, ce n'est pas que ça a disparu de moi. Comme mon admiration pour Brutus ou pour Robespierre, c'est toujours là. Mais, bien sûr, je suis passé à autre chose, j'ai tourné la page, mais la page est encore dans le livre. Et donc, il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir. Une dureté, une brutalité de Jacobin, que me reproche à l'occasion, Solaire, en disant « Ah oui, on voit bien que vous n'êtes pas Girondin. Bon. » Et puis ça s'est accumulé à un tel point que quand même, ça a fini par me réveiller. Et au fond, j'ai expliqué ça après, à propos des femmes trompées. On m'interrogeait dans Marianne, j'ai dit « Bah oui, le plus souvent, elles savent, elles mettent deux, il y a deux d'un côté, deux de l'autre, mais elles ne veulent pas faire deux et deux égale quatre, parce que c'est très embêtant. » Donc, elles rusent avec ça, et l'inconscient, c'est là-dedans. Ça se glisse dans ce « je sais, mais je ne sais pas, sans savoir, etc. » Enfin, et moi, c'était la même chose pendant le mois de juillet. Je ne voulais pas savoir. Parce que savoir, ça m'a obligé d'arrêter de faire le séminaire, de me mettre à faire la vie de Lacan, ce qui était déjà quand même agréable, et après de me mettre à faire Lacan quotidien tous les jours. Et tous les jours, ça voulait dire non seulement écrire dedans, mais en plus regarder la couleur des lettres et tout, et apprendre les fonctionnalités de l'ordinateur. Donc ça m'a mobilisé. Et celui, par exemple, d'hier, du 9 septembre, c'est moi qui l'ai fait exceptionnellement, qu'il ait mis en page, ça m'a pris 6 heures sans lever le nez de l'ordinateur. Donc c'est pas de la petite... Ça a l'air très facile, mais il faut unifier les textes, il faut corriger, il faut mettre les couleurs, bon. Donc je pensais que j'avais pas que ça à faire, bon. Mais, il faut ce qu'il faut. Une fois que la guerre est commencée, il s'agit pas de traîner, hein. Mais c'est une guerre intellectuelle, c'est la guerre du goût, comme dit Solaire, mais c'est une guerre. Alors, j'ai pas encore élaboré les nouveaux devoirs que me font ma transformation ou la transformation de quelque chose de moi en réel. C'est réel, ça veut dire que c'est quelque chose sur quoi les gens butent aussi, quelque chose qu'ils essayent de refouler, quelque chose qui, pour un certain nombre, constitue quelque chose d'insupportable. Il faut que j'admette que je suis insupportable à un certain nombre de gens. Et que c'est pas forcément leur faute, ça peut être, c'est dans leur rapport entre eux et moi. Et par quel côté je suis insupportable? Je réfléchis à ça, je réfléchissais dans le train. Je me dis, bien sûr, il n'y a rien de commun entre cette personne que j'évoquais, quelqu'un comme Jean-Claude Miner, qui est un esprit supérieur, Alain Badiou, qui est aussi un type qui s'est... plus de mathématiques que moi, beaucoup plus de mathématiques que moi, qui est un polyvalent, qui a écrit des pièces, qui a fait... donc il n'y a rien de commun entre cette personne, Jean-Claude Miner, Alain Badiou, Catherine Clément, qui a une alliance politique avec l'autre, mais enfin... Et pourtant, à un moment, mes amis même se sont trouvés mal placés dans ce pourquoi ils se sont trouvés mal goupillés comme ça, et plutôt que d'être... pas tous, François Rignot, clairement, mais qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'ils acceptent de dialoguer sur Lacan avec une personne pareille qui a calomnié Lacan de toutes les façons possibles? Qu'est-ce que Jean-Claude Minère a parlé de Lacan avec elle? C'est pas... Moi, évidemment, j'avais accepté, je l'avais recruté dans mon équipe anti-Accoyer. Mais parce que c'est Accoyer que je voulais faire changer. Donc, si vous voulez, ça ne veut pas dire que jamais j'aurais accepté de discuter avec cette personne de Lacan. C'était, j'aurais fiché des claques. Enfin, je laisse ça à Lacan. Et donc, qu'est-ce qu'il leur a pris? Je me dis quand même, leur trait commun, si j'en cherche un, leur trait commun, c'est quand même... d'avoir, et pourtant c'est ça que j'ai eu pendant longtemps, une approche intellectuelle de Lacan supérieure dans le cas de Milner, mais sans tirer la conséquence de l'analyse elle-même. Et donc, si vous les imaginez autour d'une table et j'arrive, je crée un malaise immédiat. Parce que malgré tout, si vous imaginez même Milner, même Catherine Clément, Badiou, ne parlons pas de l'autre, que... et moi, l'autorité sur Lacan, c'est moi. Même si je suis modeste et je dis, je reconnais que l'un, c'est plus de linguistique et l'autre, plus de mathématiques, mais sur Lacan, malgré tout, ça gravitera autour de ce que j'aurais dit, je pense. Et que donc, même s'il m'adore, ce qui n'est pas... Catherine Clément, oui, elle m'aime beaucoup. Badiou, il est très ambivalent, là, maintenant. Faut pas que j'en dise trop. Il faut que je le caresse un peu. Et Jean-Claude Miller, c'est un ami de toujours. Mais je pense que ma présence, malgré... Objectivement, si vous voulez, ma présence les mettrait mal à l'aise. Et que donc... Le fait que je ne sois pas... Ben ça les dérange pas, le fait que je ne sois pas dans toutes ces émissions qu'ils font, eux. Ça les dérange pas. Ils se disent pas, non, il y a une injustice qui est faite. Ils réfléchissent pas en termes de justice. D'ailleurs, je les blâme pas, Lacan, non plus. Mais ils seraient plus gênés que je sois là qu'ils ne sont gênés que je ne sois pas là. Faut que je me dise ça. Et je le dis en toute humilité, c'est-à-dire... C'est dans la structure, je suis insupportable. C'est ça aussi qui me fait de moi un réel. Parce que la personne m'est insupportable. Est-ce que là... Oui, alors il ne faut pas que j'exagère avec l'autre. Il faut que... Oui, je ne veux pas la transformer en réel. Elle, ça serait vraiment le comble. Alors, voilà. Donc il faut que j'en parle comme de tout le monde. Bon, ben, je lui rends son nom, je vais... non, mais je ne peux pas parce que... ça va... Je trouve que c'est l'affaire des tribunaux. Donc... il va falloir que j'élabore aussi au cours de ces voyages mon nouveau statut, non pas que je sois devenu réel, mais enfin quelque chose de réel. Alors ça suppose, évidemment, je ne peux plus maintenant que j'approche la septuagénarité, j'essaye des circonlocutions, il faut que je... il faut plus que je fasse la demoiselle comme ça, qui cache son nom, bon, comme j'ai fait avec le séminaire. Est-ce que c'était raisonnable? Lacan m'avait dit, nous le signerons ensemble. Il avait signé un jour, pour une édition américaine, il était entendu que Granoff allait traduire le résumé, résumer quelques chapitres, et l'article est signé Lacan et Granoff. Il a été publié comme ça, et je me rappelle encore le type des éditions de Noël, je sais pas pourquoi c'était eux, m'a dit, nous voulons faire un livre, Lacan et Granoff avec ça. Je lui ai dit, mais c'est un simple résumé, parce qu'il avait fait retraduire en français le résumé américain. Mais je lui ai dit, mais ça c'est le séminaire de Lacan. Vous ne voyez pas qu'on va autoriser la mise en vente d'un livre Lacan et Granoff, bon, je lui ai dit, c'est impossible. Il a fini par comprendre. Mais donc Lacan donnait ça. Et il y a des gens qui prenaient, même pour un travail qui n'était vraiment que de traduction en anglais. Donc ça aurait pu être comme ça, et si ça avait été comme ça, un certain nombre de procès qu'on m'a fait n'auraient pas pu être faits. Ils ont été faits sur l'écart, parce que là c'était, alors que bon, c'est clair à partir des contrats, mais il fallait sortir les contrats, que c'est une œuvre dite de collaboration. Donc si ça avait été en lettres phosphorescentes sur la couverture, ou même Jacques Lacan avec Jacques-Alain Miller en plus petit, ça changeait même l'image de la chose. Vous voyez qu'il y avait un apport créatif de quelqu'un d'autre. Donc, bon, alors Lacan, d'ailleurs, moi j'ai toujours pris comme une interprétation, quand il a dit, à propos de passer à l'écrit, ce que je découvre grâce à la modestie de Jacques-Alain Miller du nom. Il m'avait tiré la flèche, joue le modeste. Enfin, pour moi, c'était un trait, c'était comme une interprétation. Bon, donc il va falloir... C'est peut-être pas ce que vous attendiez, donc on va passer aux questions rapidement. Jusqu'à quelle heure on a ici ?
Il faut partir.
À 6 heures, il faut partir d'ici. Donc on a, oui, encore une heure et demie, au moins une heure un quart de blabla.
Une heure et
alors, je vous explique où j'en suis. J'en suis à savoir, à me dire, je ne vais plus pouvoir jouer les rosières avec mon nom propre. Je ne suis pas sûr d'avoir le talent de promoteur de mon nom propre qu'ont d'autres personnes. Je pense que je change de densité, qu'il faut que je m'y fasse, il faut que je le veuille aussi, que c'est la logique de la situation, qu'on me le demande. Les gens qui travaillent avec moi ont besoin de ça aussi, de se référer à quelque chose, une encre plus solide que ce que je représentais jusqu'à présent. Et puis voilà. Donc voilà où j'en suis. Alors la question du nom propre, évidemment, est centrale dans la question de l'un. Moi j'ai dit, tout le séminaire 19, ça tourne autour de « y a de l'un ». Et l'un s'incarne très bien dans notre vie par l'importance du nom propre qui nous désigne comme un. Et qui en plus, cette propriété... qui a été noté par tous les linguistes, qu'on ne traduit pas à travers les langues. On traduit tous les mots, mais le nom propre ne se traduit pas. Bon, alors, bien sûr, on peut traduire Julio en Julien, mais normalement, vous connaissez Julio Iglesias comme Julio Iglesias. Si on disait Julien des Églises, ça ne fait pas pareil, c'est pas le même effet. Bon, Miller, c'est la même chose. Miller de rien... Et donc la passion de s'annuler, mit l'air, là où il passe, l'air passe, il met l'air, n'est-ce pas ? Bon, ça, c'est vrai aussi. Et puis, alors mon prénom, moi, mes parents, ils m'avaient baptisé, ils m'avaient donné comme prénom Jacques virgule Alain. C'est moi qui ai créé Jacques Alain. Et pourquoi j'ai créé Jacques Alain ? Premièrement, parce que, du coup, dans ma famille, on m'appelait Jackie. Et j'ai fini par être agacé par Jackie. Quand j'ai eu 16 ans, ce qui était l'âge de ma plus âgée des petites filles, et que je vois assez mécontente de la façon dont sa vie s'organise. Donc, et puis il y avait ce truc qui. On croirait qu'on ne sait pas qui est là, quoi. Premièrement. Deuxièmement, j'ai fait ma première revue au lycée Louis-le-Grand. Et il y avait un type dans la rédaction, moi j'étais rédacteur en chef, il y avait rédacteur en chef et trois directeurs sur le dos, dont d'ailleurs, qui était de l'année d'avant, dont d'ailleurs Dan Sperber, qui est devenu le mari de Canto Sperber plus tard. Et parmi ces trois, il y avait donc Dan Sperber, et il y avait un type qui s'appelait Jean Métas. Et donc, s'il signait avec ses initiales, ça faisait JM. Et si moi, Jacques Miller, je signais avec mes initiales, ça faisait JM aussi. Et ça ne plaisait pas, je voulais me différencier. En plus, mon père s'appelait Jean Miller. Donc c'était JM. Et peut-être que je ne voulais pas avoir les mêmes initiales. Donc ça a commencé, je ne peux pas retrouver exactement, mais ça s'est cuisiné dans ma tête. Et je venais d'aller en Espagne et d'acheter les œuvres complètes. J'avais acheté les œuvres complètes de Gracian. Les œuvres complètes de Quevedo en prose, pas la poésie, et les œuvres trois volumes de Aguilar, que j'ai toujours, et les œuvres complètes de Federico Garcia Lorca. Et Federico Garcia Lorca, ça m'a paru très beau, c'est trois, comme ça, rythmé. Et d'ailleurs, j'ai modelé, bien que ça ne soit pas reconnaissable, j'ai modelé ma signature sur la signature de Federico Garcia Lorca qui était sur les couvertures d'Aguilar, c'est-à-dire avec des tiges très longues. Bon, alors il n'en reste qu'une petite allusion dans ma signature actuelle, mais c'était quand même ça qui m'a capté. Et donc j'ai créé, et il y avait le côté, je deviens le fils de mes œuvres. Je suis le fils de mon père et de ma mère, mais je suis aussi le fils de moi-même. Et donc j'ai créé, j'ai inventé Jacques Alameda. Et on s'attendrait qu'avec ça, je sois à tomber amoureux de mon nom, mais pas du tout. C'était au contraire. Alors, dans ce nom, il y a aussi, je suis bien forcé de m'apercevoir, il y a Jacques Alain. Et c'est un message, sans doute, à mon frère cadet, ça. Et c'est vrai que dans notre famille, alors que c'est un peu dissipé ailleurs, c'est assez marqué. Le côté, c'est l'aîné et le cadet. Et c'est marqué, vous savez par quoi je m'en suis aperçu, par le choix qu'il a fait à un moment où on jouait de son animal totémique. On jouait à ça. Et moi, d'ailleurs, et c'était les deux centiques qui nous avaient mis là-dessus, parce que eux, c'était les chats. Donc, il fallait choisir, ils voulaient qu'on choisisse un animal. Et moi, j'avais choisi le paon. Et j'avais choisi le paon, alors que vraiment, je ne me pavanais pas, mais sans doute aussi pour le paon. Et pour les choses, qui est vêtu des plumes du paon, le G, rare. Bon, et quel est l'animal que mon cadet a choisi? Un animal que vraiment personne ne choisit parce qu'il n'est pas, il semble pas agalmatique. La tortue. Et vous connaissez pas l'histoire du lièvre et de la tortue? L'aîné qui peut, le lièvre qui part comme un lièvre et l'autre qui va bien lentement et qui le baise à la fin. Et c'est vraiment ce qu'il a essayé de faire et ce qu'il a réussi d'ailleurs. C'est, à un moment, il était ravi d'être beaucoup, beaucoup plus connu que moi. Il l'est d'ailleurs toujours. Et donc, quand on se promenait dans la rue, quand il avait son émission quotidienne ou presque, les gens se retournaient. Gérard Miller, le rêve de son enfance était ce qu'il avait. Le truc, bravo Gérard Miller. Moi, maintenant, on m'applaudit dans la rue, mais bon, c'est devant la librairie Mola et tout. Lui, on passait dans Paris, il y avait des gens qui l'applaudissaient. Bon, donc la tortue, vous voyez, c'était un message. Ah, je lui dis bravo. Et je crois qu'il est, je ne sais pas s'il l'a fait. Est-ce qu'il savait ou non ce qu'il faisait? C'est pas sûr. C'est bon. Alors, donc, le nom propre, c'est Capital. Quand on s'appelle Bétourné, ça a des conséquences. Miller également. Voilà. Voilà où j'en suis, de mes réflexions. Oui, j'ai été content de pouvoir dire à mes petites filles, vous voyez, qui donc ont voulu rester hier, qui étaient très... Et bon, qui sont restés longtemps après à parler avec les jeunes filles du diable, probablement, avec lesquelles elles ont 16 et 13 ans, mais elles arrivent à converser, les autres sont très gentilles, donc elles se sentaient bien, et je leur dis, vous voyez qui est votre arrière-grand-père, c'est quand même quelqu'un, il est mort depuis 30 ans, regardez tout ce que ça fait remuer, ben, il n'y a personne comme ça en France qui, 30 ans après sa mort, fait remuer autant de monde, donc... Elles étaient contentes et je voulais aussi les motiver parce que c'est elles qui peuvent me réaliser. Je veux maintenant, à côté de la newsletter Lacan Quotidien, un site et faire une dialectique cité. Qui peut me faire le site? Les deux petites péronnelles, là. 13 ans et 16 ans, elles sont d'une habileté avec l'ordinateur incomparable. Donc, normalement, j'espère que ce week-end, je les ai assez motivées pour qu'elles me fabriquent ce site et je verrai ça en rentrant ce soir ou demain. Et donc, voilà où j'en suis, que, au fond, ils n'ont pas réussi leur opération. Le fait, justement, de m'avoir rayé de partout, il fallait que ça aille jusqu'au bout, mais ça y est, le mur médiatique a été percé, Pierre Assouline, par Le Point, par, maintenant, hier, c'était Le Monde, demain, ça sera Marianne avec Alexis Lacroix, donc c'est fini et au contraire on va lire la vérité de l'opération, elle va apparaître évidente et donc les gens se poseront quand même quelques questions Et ça me sert de tremplin, si je puis dire. J'ai fait du judo avec ça. Je me suis appuyé justement sur cette exclusion pour réapparaître. Enfin, ça s'est fait. Je n'ai pas calculé. Simplement, à un moment, je me suis dit, c'est maintenant où je meurs étouffé, asphyxié sous la terre, quoi. Et donc, voilà. Donc, j'en suis là. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, de ce qui vous intéresse, des séminaires, de Je parle au mur. Voilà. J'attends, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé, et j'attends un petit peu de soutien. Bon.
Je vais vous soutenir.
Comment ?
Alors, nous allons...
Je
vais vous soutenir.
On ne vous entend pas là.
Alors, on va passer aux questions.
Alors, il faut que vous veniez près de la tribune pour qu'on vous filme, paraît-il.
Je ne savais pas que j'avais passé la télévision. Je peux avec vous. Oui, bah, ma question est toute simple. Comment un psychotique peut-il réussir à lutter contre les injustices ?
Contre ?
Comment les injustices ?
Ah, bah, écoutez, heureusement que nous avons les psychotiques pour lutter contre les injustices. C'est eux qui ont fait le plus contre les injustices. Si je prends l'exemple d'un... On hésite à le dire psychotique. Bon, enfin... Un grand paranoïaque comme Jean-Jacques Rousseau, évidemment, il a lutté contre les injustices en promouvant une doctrine de l'égalité... de la volonté générale qui a eu beaucoup de conséquences dans l'histoire. Alors, est-ce que ça... Quelles injustices vous visez précisément ? C'est ça qu'il faudrait me dire. Il y a beaucoup de genres d'injustices.
Non, mais c'était d'abord, pour entrer, une question très générale. Hein. Alors, vous savez, chacun vit l'injustice ou construit sa propre injustice, ou la manière dont il vit l'injustice. Donc je le pose de manière générale, mais c'est vrai qu'entre les injustices que vivent les femmes ou les hommes,
oui.
que vivent les vieux ou les jeunes,
oui.
Qu'elle soit infantile ou qu'elle soit l'injustice, c'est celle qui nous fait souffrir.
Oui. Et alors laquelle vous fait souffrir, vous ?
Ah, moi, pour l'instant, j'ai pas de souffrance, je suis bien, là. Je suis en compagnie, c'est sympathique, je vous ai écouté, on a pris le temps de discuter. Non, mais je parlais d'un point de vue général, puisque vous avez...
Et pourquoi vous pensez que c'est les psychotiques ? Pourquoi vous pensez que c'est spécialement les psychotiques qui doivent...
Non, je posais la question pour le cas des psychotiques.
Ah, pour leur souffrance.
C'est un cas particulier.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur souffrance ?
Voilà.
Bon. Ben, écoutez, je pense que de toute façon, une consultation... chez un psychiatre ou chez un psychanalyste s'impose dans le cas de souffrance de psychotique. Il y a des personnes qui sont tout à fait améliorables, leurs souffrances sont améliorables en mettant au point un dispositif mental sur mesure qui leur convient. Par exemple, ils sont assiégés de certaines hallucinations, de certaines voix... On peut convenir, mettre au point un dispositif qui consiste à, lorsque se présente l'hallucination, la repousser, la différer, la mettre dans le fond. On arrive à enseigner ce dispositif. Parfois, on cède d'un médicament. Aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup pour soulager ces souffrances-là. Mais il faut agir.
Dans votre expérience clinique,
dans
votre expérience clinique, vous en avez rencontré des psychotiques ?
Oui, bien sûr. Voilà. Oui.
Et on peut prendre un cas particulier ?
Oui, un cas particulier, psychotique qui souffrait, à qui j'ai mis au point un de ces dispositifs sur mesure, et qui ensuite, il suffisait pendant longtemps d'un réglage hebdomadaire, c'est-à-dire il venait me voir une fois par semaine et on vérifiait que le dispositif mental était en ordre de marche, comme on peut être amené à vérifier que, je sais pas, pour les valves au cœur et tout ça, on fait un check-up. On faisait un check-up mental une fois par semaine. Et après, ça s'est espacé. Voilà, c'est...
Merci.
Merci.
Vous avez la parole ?
Tenez-vous. Alors, je crois que... Patrick...
Il faut vous lever pour qu'on vous filme.
Oui. Voilà, c'est, j'ai prélevé...
Non, alors c'est pas utile, me dit-on.
Ah bon. C'est pas... Ah bon. C'est vous qui m'aviez passé la consigne.
Ça sera... On aura le son.
Oui, mais il vaut mieux voir la personne. Il vaut mieux voir la personne. Il est très beau.
Merci.
Venez.
Ça fait du bien, merci.
Non, asseyez-vous là, comme
d'accord.
Ça.
D'accord. Oui, j'ai prélevé un petit élément que j'ai pris comme un effet d'annonce, à tort ou à raison, je ne sais pas, sur la publication éventuelle de vos cours. Alors, l'absence de publication en français, je ne parle pas évidemment des versions espagnoles, est-ce que ça participait de votre refus d'occuper le devant de la scène, comme vous disiez au départ, ou bien est-ce que c'est parce que vous aviez énormément de travail pour terminer la transcription de Lacan?
Ça a joué. Il y avait. Si vous voulez. C'est pas si naturel de s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je comprends très bien Lacan qu'il voulait s'adresser aux gens qu'il connaissait. Et même, il aurait voulu connaître. Au début, il connaissait un ses auditeurs. C'est après qu'il est arrivé à l'école normale, il y a 300 personnes. Et il a essayé. Il a fait remplir des fiches à un moment. Ça a été la terreur. À un moment, Lacan a dit, la deuxième année où il était à l'école normale, donc ça, avant, il avait 100 personnes qui suivaient à Sainte-Anne. Il n'y avait pas plus de place. Là, il y avait 300 personnes. La première année, il n'a pas fait de vague. Ça a commencé en janvier, c'est là que j'ai connu. Bon, déjà, quand on est allé vers lui, il a demandé que les normaliens viennent le voir, après la fin de la première séance, des quatre concepts fondamentaux. On y est allé, il nous a distribué des petites fiches pour qu'on remplisse avec nos noms, tout ça, on n'avait pas l'habitude, bon, on l'a fait pour lui. Et puis bon, et l'année suivante, ça a été qu'il allait faire des séminaires fermés, où il ne serait pas là lui-même, donc il voulait sans doute, je pense qu'il prenait un peu plus de temps de vacances parce qu'il mettait au point l'édition des écrits, mais il ne l'avait pas dit, j'ai reconstitué ça. En rédigeant le séminaire, je me suis dit, mais pourquoi, il avait fait ça? C'est sans doute qu'il voulait avoir plus de temps pour préparer l'édition des écrits. Et ne viendront qu'à ces séminaires ceux qui auront des raisons d'y être et qui les expliqueront par écrit. Et que, donc, terreur générale dans la salle, Lacan coupe les têtes, etc. Et donc Lacan, l'homme de pouvoir, n'est-ce pas, sa majesté, tout ça. Après, ça a été... Alors, et donc, il était supposé, lui, lire les trucs qu'on lui envoyait, mais ça le rasait. Donc, il ne les lisait pas. Donc, finalement, tout le monde, après toutes ces manigances, tout le monde s'est retrouvé dans le séminaire spécialisé. Bon, c'était ça, l'homme de pouvoir Lacan. C'était tellement pas un homme de pouvoir. Moi, je suis un homme de pouvoir par certains égards. À certains égards. Mais lui, c'est pas du tout. C'est-à-dire que c'était dès qu'il s'agissait de diriger, c'était un grand confus. Alors, en même temps, il avait une excellente orientation. Il a toujours survécu, il a surnagé, il a tenu le coup avec ses thèses à lui jusqu'à la fin de sa vie et tout. Donc, à la fois, il faut mettre ça ensemble. À la fois, il était bien orienté foncièrement. Mais dans les questions pratiques où il faut payer de sa personne, vous demandez aux gens de remplir des fiches. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui les lise. Or, ça le rasait. Il voulait demander les fiches et il ne voulait pas les lire. Donc, il faut suivre ça dans le séminaire. C'est vraiment du Woody Allen. Et donc, finalement, tout le monde se retrouvait en place. Alors, je dis, moi, c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rationalité de... C'est comment ça fonctionne, enfin, la rationalité de la chose. Donc, j'ai créé des écoles. J'ai créé 7 écoles dans le monde. J'en ai créé en Argentine, au Brésil, ou qu'est-ce que j'avais à faire. Et les gens pensaient que j'aimais les diriger. Pas du tout. J'aimais créer les machines. Une fois que c'était créé, d'abord, ça tient le coup. Je constate depuis 20 ans. Elles tiennent le coup. Et une fois qu'elles sont créées, ça ne m'intéresse plus. Et alors, ils sont affreusement déçus parce qu'ils pensent que je ne les aime plus du tout. Mais si j'étais resté à les diriger, ils auraient dit que je jouissais du pouvoir. Mais je ne jouis pas du pouvoir. Moi, je jouis du bricolage institutionnel. Ça, oui, parce que, si vous voulez, quand il y avait 20 groupes en Argentine qui étaient prêts à se déchirer, en Espagne, En Argentine, c'était l'intel a collaboré avec la dictature, les autres ont fui le pays parce que ce sont des lâches, etc. Et trouver la façon de rassembler tout le monde et que ça marche et que ça fasse une école puissante avec des grandes bibliothèques, etc., il y a un problème à résoudre et ça m'a intéressé au Brésil, ça m'a intéressé en Argentine, ça m'a intéressé là où j'ai pu résoudre le problème. Et puis après, j'ai compris que je ne pouvais pas aller au-delà de cette école et donc... j'ai arrêté d'être président et maintenant c'est d'autres et j'ai créé des trucs qui tiennent le coup. Et Lacan, il a créé une école. Lacan, avec les séminaires extraordinaires qu'il faisait et tout, et l'autre, l'époque où c'était, il a créé une école et elle a tenu, elle a vivoté 16 ans, elle a disparu. Et moi, j'ai regardé à quel moment l'école de la cause freudienne avait plus de 16 ans et je me suis dit, voilà, on a réussi, on dure plus longtemps. C'était la même chose que la référence qui m'est venue n'est pas forcément prometteuse. C'est Lénine s'est connu à danser sur la neige lorsque le pouvoir soviétique a duré plus longtemps que la Commune de Paris. Mais ça a duré 70 ans et après ça a fait flop, l'Union soviétique. Donc là, je crois qu'elles sont solides pour longtemps et que le fait, elles ont dû accepter d'être sevrées. Sevrer de ma présence, si je puis dire. Pour l'Argentine, je voulais tellement que ça, que l'année où j'ai obtenu la création de cette école, j'y suis allé 5 fois dans l'année en Argentine. Donc je prenais le Boeing comme le métro. Et puis, je crois qu'ils en ont eu tellement marre de la pression que j'ai exercée sur eux qu'ils ont créé l'école pour que je reste en France. Et d'ailleurs, ils m'ont fait la tête à peine, ça a été créé. Aussitôt, il y a eu un malentendu. J'avais offensé un tel en disant je ne sais plus quoi. Et donc, je me souviens, je suis sorti de la tribune, j'ai parlé avec quelqu'un. Après, je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Et je ne savais même pas le chemin pour aller à l'hôtel. Et je suis rentré à l'hôtel, j'ai trouvé quand même, j'ai téléphoné. Ah, mais tu as dit ce mot-là et un tel qui est très susceptible à considérer qu'il était offensé. Et je me souviens, je suis allé au premier conseil d'administration de cette école, je suis arrivé, et tous les il y avait les 12 Argentins que j'avais nommés moi un par un, etc. Et je leur ai dit, on va passer toute la soirée comme ça, ça va durer longtemps, votre petit jeu, etc. Bon, ils se sont détendus, mais j'ai compris qu'il fallait que je rentre en France, et cette fois-ci, pendant 2 ans, je n'y suis pas allé pour les laisser souffler. Donc je sais faire ça, mais Lacan, lui, il était pas du tout... mais lui, ce qu'il voulait, c'est connaître les gens à qui il parlait. C'est pour ça que la postérité, c'était pour lui une abstraction complète. Et je comprends ça. Moi aussi, j'ai le goût de connaître les gens un par un, et pas de disperser ça, on ne sait pas ce qu'ils en font, etc. Et donc... l'idée du livre, autant j'adore lire les livres, mais pour moi c'est de l'autre. Moi-même faire un livre qu'on peut prendre, laisser tomber, moi ce que j'aime c'est capter l'attention. Et donc j'ai besoin de l'auditoire. Et même j'avais dit un jour où j'ai été appelé à témoigner d'un procès qu'on me faisait, on m'a fait des procès, il faut bien dire, je les ai tous gagnés jusqu'à présent, et que, au fond, la juge voulait vraiment comprendre, faire parler le psychanalyste, comprendre quelque chose. C'était 3 juges femmes, parce que c'est une profession qui se féminise, comme la psychanalyse. Et la juge, d'ailleurs, était une très belle femme brune, qui présentait très bien. Bien que dans le cadre enchaîné, on disait qu'elle faisait des infamies par ailleurs. Et nobody's perfect. Et il y avait 2 autres dames à ses côtés, et elle voulait savoir. J'avais employé. Elle voulait me faire parler de pourquoi j'étais poursuivi. Parce que j'avais fait une tirade à propos d'un collègue, que j'avais mis cette tirade comme préface de l'annuaire de l'Association mondiale de psychanalyse. Donc le collègue considérait que c'était pas agréable, en effet, étant membre de l'Association de psychanalyse, d'avoir le président de l'Association de psychanalyse faisant une diatribe quand même contre vous et mettant ça en préface. Bon. Rétrospectivement, je me dis, oui, c'est parce que l'éditeur espagnol qui allait faire cet annuaire me pressait au téléphone de « il faut que vous m'envoyiez la préface et tout », j'avais pas le temps de l'écrire, je lui ai dit « prenez cette diatribe ». Et le gars, au lieu, Bassols, qui m'aime bien, mais il aurait pu me dire, vous savez, ça va faire mauvais effet quand même. Mais il ne me l'a pas dit. Il était tellement discipliné qu'il l'a mise. Et donc, moi-même, quand je suis arrivé, je dis la vérité, au congrès, que j'ai vu ça, je me suis dit, ça tombe mal. Bon, alors l'autre m'a fait un procès. Il n'y avait pas besoin de faire un procès pour ça. Enfin, il l'a perdu, donc, quand même. Et donc, la dame juge, à un moment, j'ai employé l'expression « point de capiton », et elle demandait, mais que ce qui était un concept de Lacan, expliquez-nous ça. Les trois dames qui voulaient savoir ce que c'était des points de capiton de Lacan. Et donc, j'ai expliqué ça, je ne sais plus comment, et j'ai vu justement cette petite lueur de compréhension. Et je me suis rendu compte que je me nourrissais de ça dans mes cours. Je me nourrissais du petit éclair de compréhension au moment où je trouve la métaphore, le truc, je me casse la tête pour arriver à le communiquer, et alors que la jouissance de Lacan est visiblement très différente. La jouissance de Lacan, c'est de dépister l'autre, c'est « venez avec moi, ma chère, et on vous emmène dans un labyrinthe, ayez confiance, suivez-moi, et on est perdu, perplexe, et il doit jouir de ça, je suppose, Lacan, de quelque chose, ce rapport entre la confiance qu'on fait à celui qu'on écoute et le fait qu'on ne s'y retrouve pas. Et moi, c'est autre chose, vraiment complètement différent, c'est le moment où, tac, j'allume quelque chose chez l'autre, et évidemment, dans toute compréhension, il y a une jouissance, là, quand on le dit, et c'est quand on touche la jouissance de quelqu'un que quelqu'un comprend. On sent comme ça, bon, on ne comprend rien. Et d'ailleurs, dès qu'on regarde de près, c'est difficile de savoir où elle est, la compréhension. Et parfois, on peut simplement, avec le corps et la conviction et le ton, entraîner des gens qui ne comprennent rien, j'ai vu ça. Ou les arrêter. Moi, qu'est-ce qui m'a vissé dans le gauchisme? C'est le jour où, à Besançon, où il y avait 1000 personnes, 1000 étudiants, à l'appel des anarchistes qui allaient traverser la rue pour aller occuper le théâtre de Ledoux, qui est juste en face d'une petite rue. Les bâtiments de l'université sont séparés par une toute petite rue comme ça. Et donc, il y a la pelouse de l'université. Il y avait 1000 étudiants. Au début de mai 68, enfin et les anarchistes voulaient les entraîner pour occuper le théâtre de Ledoux comme l'Odéon. Et moi, j'étais contre, je trouvais que ça allait faire du désordre, casser les trucs et tout. J'ai pris le micro, je me suis mis en face d'Émile et je les ai arrêtés en parlant. Et à partir de là, j'ai été dans le gauchisme pour 3 ans, jusqu'au bout, parce que j'étais fidèle, eux m'avaient donné ça, de m'écouter, quand je les stoppais, simplement en parlant, et donc... il a fallu que mes camarades Mao veuillent me demander une autocritique que j'aurais refusé de faire pour que ça se rompe. Mais ça s'était constitué ce jour-là. Et donc, en effet, la voix, ça peut suffire, la conviction. Mais moi, c'est quand même l'éclair de compréhension. Je bouffe de l'éclair de compréhension. Alors, transformer ça en livre où les gens vont comprendre ou pas comprendre, mais je verrai rien, moi, ça ne m'apporte pas grand-chose. Et donc, je suis mal à l'aise. Si vous voulez, c'est comme le sous-produit, la transcription est comme le sous-produit de ma jouissance. Et ce sous-produit ne me passionne pas. Je préfère faire le cours suivant et d'avoir de nouveau... Alors, je suis très gêné au cours que je fais parce que c'est une scène de théâtre et je vois pas bien les visages. Mais moi, j'ai besoin de voir 2 ou 3 visages que je suis spécialement et différents. Enfin, bon. Et c'est là que c'est ça qui me soutient et je travaille pour ça, au fond, pour... Et si je désosse le texte de Lacan ou les concepts et que... Alors, pourquoi je les présente aussi nettement articulés? Pourquoi c'est ça ma jouissance, y compris dans le texte de Lacan? Je montre, il y a des gens, Mélèze, il était gentil, il me disait, mais là, alors Lacan était parti dans une grande prosopopée, enfin une grande tirade, tout. Mais moi, les grandes tirades de Lacan, je montre que c'est articulé de façon extrêmement solide. On peut les voir autrement d'ailleurs, on pourrait valoriser cet aspect-là. Moi, je valorise l'aspect articulé. Et l'aspect, et d'ailleurs... Ma jouissance est tellement impliquée là-dedans qu'il y a un exercice que j'aimais par-dessus tout quand j'étais avant la sixième, c'était en huitième, c'était l'analyse grammaticale. On vous demandait d'analyser grammaticalement les phrases et de montrer les subordonnées, les trucs. Et j'aimais tellement ça que quand il y avait un devoir d'analyse grammaticale à faire, je rentrais directement de l'école à la maison pour faire ça. Et je fais ça encore maintenant avec Lacan. C'est bon. À quoi s'ajoute, et ça c'était vraiment quand donc j'avais 8 ans. Et ensuite, mon père est devenu radiologue. Et j'ai été évidemment fasciné par les clichés de radiologie avec, on voyait les squelettes, etc. Et je cherche visiblement, dans le texte, j'ai besoin de le désosser et de voir l'architecture osseuse du texte, d'arriver à l'os. Après quoi, je remets de la chair dessus, vous voyez, ça n'a pas très ragoûtant, hein, mais... Pour arriver à faire le séminaire de Lacan, il faut que je trouve l'articulation logique, et à ce moment-là, je comprends comment ça se bâtit. Donc, bien sûr, ma jouissance y est impliquée, bien sûr, mais si vous voulez le confier à d'autres, alors ça m'amuserait, moi, ça m'amuse. La vie de Lacan que j'écris, j'ai fait un cours à partir de janvier à juin 2010 qui s'appelait Vie de Lacan. Et c'est ça qui est mon point de départ. Et même, j'ai écrit 1300 signes simplement à partir du canevas de la première. Et j'en ai fait 15 comme ça. Donc, vous voyez que je pourrais faire une encyclopédie. Sans doute, si les autres sont... C'est pas ce que j'avais tout dit, mais à partir de là et de fil en aiguille, justement, ça me donne énormément de matière. Mais il faut un certain temps pour rédiger ça. Et donc, le laisser simplement transcrire brut... Je n'y étais pas fait, j'étais pas résigné, je laissais ça paraître dans des revues, mais je ne pouvais pas m'y reconnaître complètement. Bon, passons. Merlet.
Ah bon ?
Ça marche ?
Oui.
Bon, je voulais... Je voulais vous demander, pour une question sur la couverture, pourquoi avez-vous choisi ce diptyque de
Dürer ?
Est-ce que vous pouvez nous le commenter rapidement ?
Quelle chose ?
Séminaire au pire.
Ah, pourquoi j'ai choisi ? Oui, je peux vous commenter ça rapidement.
Oui.
Alors, je ne pouvais quand même pas mettre, sous prétexte qu'il le cite en passant, l'escamoteur de Jérôme Bosch, bien que ce soit une toile que j'aime beaucoup, et il n'y a pas d'autre référence artistique là. Et il m'a paru que, étant donné la difficulté du séminaire aussi, il fallait bien que ce soit clair, c'était une chose sur les rapports des deux sexes. Et que, pour moi, le plus beau tableau qui représente vraiment l'homme et la femme, c'est pas Cranach, qui a été à l'honneur sous mes fenêtres au Luxembourg, c'est Dürer. Et donc, je trouve qu'elle est très réussie, j'en suis très fier. Celle qu'on n'a pas bien réussie, c'est d'un autre à l'autre. Parce que je voulais, j'ai été pris de passion pour cette toile de Dali, il aurait fallu la découper. C'était interdit les propriétaires ne voulaient pas qu'on la découpe. Donc on a cherché, je lui ai dit, alors il n'y a qu'à en mettre plusieurs. Mais ce n'était pas une bonne idée, ça n'a pas de la consistance d'une... Bon, celle-là est très réussie. Bon, voilà. Autre question. Parlez fort, venez ici plus près, venez plus près, allez. Ne mégotez pas. Ça se passe bien ?
Trop bien.
Bien ? Qui êtes-vous ?
Martine Vercel.
Comment ?
Martine Vercel.
Oui.
Alors, la question que je voulais vous poser, c'est tout simplement, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de Oupir ?
De Oupir.
Oupir, qui précède encore. Donc, Oupir encore, avec ce tournant sur quelque chose qui me paraît énigmatique, Yadelin. Donc, si vous pouviez...
Oui, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses au dos, n'est-ce pas ? Ce qui est frappant, c'est le temps que j'ai mis, moi, à me rendre compte vraiment que cette formule que Lacan avait lancée, et il disait « Yadelin !» Bon, une sorte de cri. « Yadelin, il y a de l'un » était le pendant de « il n'y a pas de rapport sexuel ». C'est dit nulle part. Et je me suis rendu compte que bien sûr que d'un côté, il y a la phrase qui dit ce qu'il n'y a pas, qu'il n'y a justement pas de l'un sexuel, il n'y a pas de le un aristophanesque supposé être composé des deux moitiés qui s'emboîtent. Ce un-là n'existe pas, le un fusionnel. C'est ça que veut dire il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas le mythe d'Aristophane. Le garçon n'est pas fait pour la fille et la fille pour le garçon, comme disait encore Jones et comme dit la Bible et puis toutes les sagesses vous disent ça. Enfin, toutes les sagesses. Est-ce que toutes les sagesses disent ça? Non. Il y a les sagesses chinoises, elles sont faites pour les hommes, clairement. On ne va pas dire que le Tao est fait pour les femmes. Enfin, je ne sais pas, mais il y a peut-être quelqu'un qui connaît ça, mais si on n'y ai jamais pensé là avant. C'est évidemment des sagesses pour hommes. Sans ça, c'est l'harmonie. Le mot d'ordre de la sagesse, c'est l'harmonie. Et donc, d'abord, l'harmonie entre le yin et le yang, entre l'élément féminin, etc. D'où la terreur que j'ai eue. Moi, je ne sais pas si vous lisez Lacan quotidien, mais j'ai expliqué que j'avais tiré le Yi King à 6 heures du matin à l'île de Ré, et qu'à ma stupéfaction, j'ai fait 6 yang de suite. C'est-à-dire 6 traits masculins qui veut dire qu'on est le dragon bondissant à qui rien ne résiste. Et donc, comme je me prends pour ça, vous voyez un peu l'effet d'ironie de le recevoir. C'est très curieux parce que, en effet, il y a si yang, c'est-à-dire pas un seul élément féminin. Et au contraire, si je puis dire, dans la vie amoureuse, l'aspiration à être si ying, à être complètement passif, c'est vraiment comme à l'exercice. Dans l'action, les si yang et au déduit, les si ying. Enfin, c'était comme ça que j'ai vu la chose. Et donc, toutes les sagesses, c'est cet accord, et Lacan dit, il n'y a pas. Mais en revanche, ce qu'il y a, c'est l'articulation signifiante. Il y a le fait que il n'y a pas le un fusionnel, il y a le un discret, au sens où on emploie le mot en linguistique, c'est-à-dire qui est un élément séparé des autres. Et que ça vient du discours, et qu'au fond, plein de choses en procèdent, y compris l'idée de Dieu, y compris qu'on est aux prises avec ça, parce que le langage nous livre ça. Il nous livre la différence entre Catherine Millot et Catherine Millet. Il nous livre la... ce qu'on peut faire avec B tourné en bourrique, avec Miller de rien. Il nous livre tout ça. Et qu'il nous livre Dieu aussi, moyennant certaines transformations du un discret en un global, etc. Mais bon. Et donc, il a visé ça, et au fond, ça permet de simplifier la doctrine de la répétition dans la psychanalyse. On répète le même élément, mais ça détend. Détache d'autant plus, et ça c'est pas vraiment accompli là, c'est plus dans encore, ça détache justement, disons, il a simplifié ce qu'il appelait avant l'ordre symbolique, en disant, il y a de l'un, parce que l'ordre symbolique c'est encore une notion, elle est formidable cette notion, elle sert tout le temps, encore aujourd'hui aux gens, mais si vous la comparez à la formule, il y a de l'un, et on fait l'apocope du « il », parce que on est devant la pure présence, donc il n'y a même pas le « il » mystérieux du « il y a », qui est en allemand dans « es gibt », ou en anglais dans « there is ». On enlève même ça. On n'a plus que le « être » qui vous saute à la figure. Bon. Et donc, quand vous avez cet élément... j'ai oublié la phrase précédente, donc ça va mal se lier dans l'enthousiasme d'expliquer la chose et de trouver quelque chose que je n'avais pas expliqué jusqu'à présent. Où est-ce que j'en étais? Sur le... il y a, c'est juste maintenant, mais... si on compare à l'art symbolique, ce « il y a », c'est beaucoup plus clean, parce que l'ordre symbolique, finalement, vous pouvez... c'est pas simplement une chose signifiante. On entend par là aussi le système des significations. Les gens entendent à l'occasion l'ordre symbolique. C'est l'ordre de la cour de Versailles. L'ordre de la cour de Versailles, c'est la hiérarchie du pouvoir en France. Donc, l'ordre symbolique, c'est un peu gluant comme notion. C'est une notion très clean par rapport aux saloperies qu'on a d'habitude. mais par rapport à il y a de l'un, ça charrie toute une des tas de concepts un peu lourds et grossiers. Bon, et donc il y a de l'un, c'est la simplification de ça. C'est plus près de la chaîne de Markov ou de la chaîne de la machine de Turing dont je vais parler dans la suite de Procéma, de mon canular, mais j'arrive à la machine de Turing qui m'a toujours fasciné dans mon jeune temps. Et je rêvais de trouver quelque chose d'aussi simple et d'aussi formidable que la machine de Turing, qui aurait été la machine de Miller. Bon, et donc je l'ai trouvé par le canular, je l'ai trouvé enfin. Et elle marche d'une certaine façon. Bon. Aussi bien que la machine de Turing, qui est une pure idée. On l'a jamais. C'est pas une machine. On met de l'électricité. Elle fait coin-coin. C'est une machine d'idée. Alors, au fond, ça simplifie l'ordre symbolique en vraiment faisant voir la succession des 1 que vous avez un peu dans les 1 et 0, 0 1 de Lacan du séminaire de la lettre volée. Mais ça prend ça vraiment comme le cœur de la chose. Et du même coup, la jouissance se simplifie aussi. Et dans encore, en quelque sorte, c'est le pendant de Oupir, parce que là, on pige que cet élément de jouissance, Lacan s'occupe plus tellement que si c'est différent ou pareil que le plaisir, alors qu'avant, c'est essentiel de distinguer plaisir et jouissance. À partir d'encore, ce n'est pas la question. C'est qu'il y a d'un côté le signifiant qui se réduit à ce un qui se répète, et que ça opère des effets de jouissance et pas des effets. Les effets de signification ne sont pas importants. C'est les effets de jouissance. Et alors évidemment, la compréhension mêle les deux, mais c'est de ça qu'on s'occupe. Et donc, ça simplifie aussi la doctrine de la jouissance. Ai-je bien répondu, madame? Bon, merci. Alors, je suis content. Alors, ça va. Voilà. Alors, autre question. Madame, que j'avais coupée tout à l'heure.
Oui, c'est pas du tout...
Vous êtes qui, vous ?
Catherine. Je m'appelle Catherine Thomas. C'est pas du tout une question, c'est que vous venez parler du yang bondissant. Et tout à l'heure, du dragon bondissant, pardon.
C'est ce que j'ai lu, vous savez, dans les commentaires.
Oui, oui. Non, mais effectivement, le dragon bondissant. Mais je voulais juste vous faire une petite remarque. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Tout à l'heure, quand vous avez fait allusion à Kill Bill.
À qui ?
À Kill Bill, enterré vivant.
Kill Bill.
Ah oui.
Voilà. Moi, j'ai pensé tout de suite, et je pense que, enfin, je trouve que l'image conviendrait mieux, parce que être sous la terre, finalement, bon, je pense que c'est pas terrible, mais par contre, j'ai pensé au colonel Chabert qui se tire
de dessous. Surtout que j'ai toujours adoré le colonel Chabert.
Moi aussi.
Oui.
Et donc, j'ai tout de suite pensé à cette image.
Et mais vous savez que dans le colonel Chabert, on parle à un moment du manteau qu'il porte. Je ne sais plus comment ça s'appelle de mémoire. Ça s'appelle un.
Oui, c'est le manteau du militaire.
Non, mais parce qu'il y a plusieurs couches et oui. Il a été enterré sous plusieurs couches.
Tout à fait.
Et ça a plusieurs couches. Et j'ai trouvé une gravure de l'époque où il y a justement ce manteau formidable. Et à l'instant, ça m'échappe. Hein ? Non,
c'est pas une capote.
Non, bon, blessant. Ouais. On le trouve, il arrive comme ça. Et j'étais ravi d'avoir trouvé la gravure où on voyait vraiment ce que c'était. Bon, passons.
Voilà, donc c'est quand même bien pire d'être sous un tas de cadavres que sous la terre.
Alors, oui. Je connais le Chabert, mais je ne me suis jamais vraiment identifié au colonel Chabert. Là. Si vous voulez, là, il revient, mais il se fait de nouveau écrabouiller. Donc, ce n'est pas l'exemple
à cause de
que
sa
je préférerais.
Femme.
Je préférerais, par exemple... Non, dans le genre, ce n'est pas un bon exemple. Moi, je préférerais...
Non, mais je voyais
j'aime beaucoup la nouvelle, mais je préférerais Richard Cœur de Lion qui rentre D'accord. de la croisade pour chasser Jean sans terre, par
D'accord.
exemple.
D'accord. Mais moi, je le voyais sur le champ
dans
de bataille.
Hein
je le voyais sur le champ de bataille avec ce tas de cadavres dessus.
Oui, ben enfin, il revient, il dérange tout le monde, et finalement, on lui passe sur le corps.
D'accord.
C'est pas un destin qu'un dragon bondissant accepte.
Désolé.
Alors, j'avais une autre question à vous poser. C'est tout à l'heure, quand je suis venu vous chercher, nous avions de la difficulté à nous trouver, et vous m'avez dit au téléphone, mais écoutez, enfin, je suis là où je dois être.
C'est pratique.
J'ai trouvé que c'était parfait. Et je dis, alors, est-ce que maintenant, au fond, par rapport à ce qui s'est passé donc, à l'école normale, enfin, vous êtes là où vous devez être?
Oui. Tout à fait. Vous m'avez entendu. Oh, c'est bien. On arrête là. Je vous remercie. Je suis ravi d'avoir commencé ma première étape, que ce soit ma première étape à Bordeaux. Elle m'encourage. Je nous trouve tous formidables, moi et vous. Et donc, je vais continuer dans 15 jours seulement, je crois, parce que la semaine prochaine, j'ai un séminaire le samedi. Je continue par Toulouse.
Toulouse.
Donc, je serai chez Christelle Albert. Voilà.
Merci encore à la librairie Mola, merci à Jacques Alain et merci à vous tous, avec cette bonne température, d'avoir tenu impeccablement. Comment ? Ah oui, le diable est invité ici, une partie de l'équipe, de l'équipe du diable probablement, est invitée ici le 26 novembre. Hein, il y aura certainement 3-4 personnes de la rédaction du diable.